Interview.
1 du jour.
Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez RDIWA sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. L'interview du jour sera menée par l'ami Gwen. Bonjour Gwen.
Bonjour Émilie.
Et par moi-même. Alors nous recevons Sarah.
Bonjour Émilie.
Sarah, je ne me suis même pas renseignée, je ne connais pas ton nom de famille.
Puente.
Tu fais partie de l'organisation du Festival du Polar Assaillant.
C'est cela, depuis 3 ans maintenant.
Et nous avons aussi la chance de recevoir Fabio Micheli. Bonjour Fabio.
Bonjour.
Tu es un auteur, maintenant on peut le dire, à succès.
Oula, à succès, peut-être pas encore.
Un certain succès alors.
Ouais, un petit succès.
Un petit succès.
Je suis pas encore très bankable, mais ça va arriver.
Tu écris donc des polars à tendance fantastique.
Du thriller.
Noir.
Noir, oui, à tendance fantastique et je dirais même psychologique.
Psychologique, un truc de torturé.
Voilà, un truc de fou, quoi.
On parlera après de tes influences et de ton travail et de ce que tu as écrit. Mais on va commencer par parler du festival en lui-même, qui aura donc lieu les 10, 11, 12 octobre 2014, évidemment, à Saillant. Alors, le nom de ce festival, c'est
Anguille-sous-Roche.
Évidemment, ça sonne...
Voilà, la roche, les trois becs.
Tout à fait. Et l'anguille ?
L'anguille, je ne sais pas.
C'est... En tout cas, quand il y a anguille sous roche...
Ouais, c'est louche.
C'est louche.
Voilà.
C'est louche. 3 jours de festival ?
3 jours de festival depuis l'année dernière. On attaque sur 3 jours. Toutes les autres éditions étaient sur le samedi, dimanche. Et depuis 2 ans, on attaque le vendredi soir avec une l'Éden à créer une soirée cinéma. Donc ça permet d'ouvrir le festival tranquillement. Et d'ouvrir en dehors du DIWA pur.
Pour les auditeurs qui seraient un peu affolés de toutes les informations qu'on va donner maintenant et les dates et les heures, sur la page RDIWA, vous aurez évidemment toutes les infos pour parvenir à télécharger le programme sur le site internet. Tout sera noté. Donc si vous ne pouvez pas tout noter, n'ayez pas peur. Donc ça commence le vendredi soir avec une soirée à l'Éden. À quelle heure ? 18h30.
Après, il y a deux films et un repas.
Et bon, alors, le super truc de la soirée, c'est aussi la présence d'un auteur.
Oui, de Patrice Dard, qui vient pour la diffusion, entre autres, de La vieille qui marchait dans la mer, adapté d'un roman de son père. Et il pourra y avoir un échange avec lui, questions, réponses. Et il est là tout le week-end aussi. Hein.
C'est la star du jour ou il y en a d'autres ?
Oh, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Bon, on dira ça après, on a tout. Donc, il y a un repas et bœuf-carotte, hein, comme on le notait.
Oui, forcément, bœuf-carotte.
Et réservation indispensable, bon, avant le 9 octobre.
Oui.
Ça, c'est pareil, tout est sur le site internet, je suppose.
Oui.
Voilà. Donc, si vous voulez manger avec Patrice Dard, il faut réserver.
C'est mieux.
Le samedi 11 octobre.
Samedi 11 octobre, la nouveauté, c'est le samedi matin, rencontre avec des auteurs jeunesse à la médiathèque d'Oust, où il y aura 2 auteurs, Stéphane Marchand et Roselyne Bertin, qui viennent échanger avec une classe d'Oust qui est en train de préparer toute une rencontre, questions-réponses, une autre classe qui est en train d'étudier des livres écrits par ces auteurs. Et puis après, c'est ouvert à tout autre public intéressé, jeune public. Et il y aura, en plus de cette rencontre, Archijeux qui sera là toute la matinée.
Voilà, c'est une asso de craie.
C'est une asso de craie qui vient faire des animations, jeux de société le matin.
C'est médiathèque. Donc le festival de Saillant, mais on peut être amené à aller, je vois, à Craie, à Oust, à Saillant. Enfin voilà, ça, c'est tout autour.
On commence à essayer de tisser une toile petit à petit pour sortir du DIWA. Et est-ce que c'est vrai que mine de rien, on est loin. Voilà, on a le train. Alors on a des auteurs qui arrivent en train jusqu'à Saillant, d'autres qui nous demandent mais où c'est ? Je ne trouve pas.
Comment ça ?
Donc après, voilà, on essaie de se déplacer un peu et de délocaliser la manifestation tout en restant pour le principal sur Saillant le samedi et le dimanche.
C'est un peu ça l'intérêt, ouais. C'est qu'il se passe des choses un peu partout, voilà. Effectivement. Refaire un festival là où il se passe déjà des choses, c'est un peu dommage. Mm.
Et puis bon, Saillant, c'est quand même la 13e édition cette année.
C'est ce que j'allais...
Ça commence à être connu, mine de rien, bon, grâce aux réseaux sociaux, entre autres, parce que c'est vrai que ça a une ouverture.
Vous pourrez liker le festival et avoir toutes les infos grâce au réseau social bleu.
Et c'est vrai que bon, et on reste sur Saillant, les auteurs aiment bien être accueillis à Saillant. On a suffisamment de lieux sur Saillant pour faire des manifestations, des tables rondes, des lectures... des conférences, tout ça, aussi bien à la mairie, à l'Oignon, à la salle des fêtes, salle polyvalente. Donc il y a de quoi faire à Saillant.
Et ça se passe comment, tout ce qui est subventions pour faire marcher le festival?
Alors les subventions, ben, on a la commune de Saillant, la région, la Drôme et la communauté de communes. Ça c'est les, tout ce qui est subventions officielles. Et puis après on a des partenaires privés qui nous aident, qui font des dons plus ou moins importants.
Des commerçants locaux, des choses comme ça?
Commerçants locaux, donc cette année beaucoup sur Saillant. Et puis, ben on va frapper partout, hein, aussi bien dons en espèces que chez les caves, une bouteille de clairette pour offrir aux auteurs. Voilà, tout le monde, il y a plutôt des bonnes volontés cette année.
Ça prend de l'ampleur, je suppose, au bout de la 13e année?
Oui, ça prend de l'ampleur. L'an dernier, bon, c'est vrai que ça va paraître dérisoire, mais... On est presque arrivé à 500 visiteurs, alors qu'il y a des années où ça tournait à 200. Et bon, c'est vrai qu'on en parle. Maintenant, on a des auteurs qui nous écrivent pour nous demander de participer. Avant, c'est nous qui envoyons les...
Je pense que c'est un signe, ça.
Voilà, ça, ouais. C'est un signe. Et les maisons d'édition, parce que bon, là, pour l'année prochaine, on prépare un super truc. Je l'annonce quand même.
Il faudra revenir voilà. Sur les ondes de RDO en parlant.
Ouais, l'année prochaine, ça sera les 70 ans de la série noire, donc Gallimard. Et tout a l'air de bien s'enclencher, quoi. Donc on est plutôt content parce qu'on a un petit salon du polar par rapport à d'autres grandes messes qu'il y a en France, qui vont sûrement faire la même chose, les 70 ans de la série noire. Bon, on nous répond favorablement et les auteurs nous écrivent. Là, on est à 15 jours du salon. J'ai encore un attaché de presse qui m'a envoyé un mail pour me demander de faire participer son auteur.
Donc ça y est, on court après le festival Anguille-sous-Roche.
C'est bien, ça nous fait plaisir.
Et c'est l'occasion de décerner un prix aussi, ou
oui.
Plusieurs?
Alors plusieurs prix, parce que depuis 2 ans, officiellement, il y a un concours de nouvelles qui est ouvert aux scolaires. Donc il y a un prix élémentaire 6e, CM1, CM2 6e, et un prix ado. Et cette année, on a 4 classes élémentaires qui ont participé, et 3 classes collège. Et contrairement à l'an dernier où la meilleure nouvelle avait été élue dans les médiathèques, elles étaient à disposition ou sur les sites internet, là c'est deux classes jury. Donc une classe du collège de Die avec Élise Richer qui fait lire sa classe sur la nouvelle collégienne, et une classe d'Oust qui fait lire pour l'élémentaire. Donc il va y avoir 7 remises de prix à 15h. Et après, il y a le grand prix des lecteurs Anguille-sous-Roche, dont la lauréate passée était Catherine Bessonard, qui est cette année présidente du jury. Donc là, elle a les 3 derniers sélectionnés en main. C'est Gaël Perrin pour Au les cœurs, Bernard Boudot, Le cercle d'argent, et Nicolas Lebel, Le jour des morts. Et à 18h, le 11 octobre, sera remis le prix.
Et par qui est constitué ce jury?
Des lecteurs qu'on est allé chercher un peu. Donc il y a professeur, libraire, retraité, il était formateur, une boulangère, voilà.
Des gens de Saillant?
Pas que de Saillant, Cray, Die et Saillant.
Le samedi 11, on fait une sélection, hein, vous pourrez consulter le programme, mais... Il y a aussi le samedi soir
là, quand il y a la remise des prix. C'est vrai que la salle des fêtes commence à être petite. L'an dernier, on a vu qu'il y a eu une affluence d'un seul coup. C'était assez jubilatoire, je dois dire, de voir tous ces gens, et des jeunes et des moins jeunes, être là. C'est pour ça que cette année, on a essayé de faire des animations tout le week-end pour que les gens reviennent aussi le dimanche. Parce que bon, il y a le marché à Saillant qui attire des gens, donc on aimerait que les gens qui viennent sur le marché de Saillant, ben on profite pour descendre à la salle des fêtes, rencontrer les auteurs. Donc il y a les animations tout au long du week-end, il y a les lectures faites par la compagnie du hasard, Lunmila et Yasmina.
Les auditeurs de RDOA connaissent la voix de Lunmila.
Ouais, voilà, qui faisait des émissions. Il y a donc lecture, animation de police scientifique, dont la journée du vendredi, j'ai oublié de dire, est réservée pour les scolaires. Toute la journée du vendredi, donc c'est pareil, c'est sur inscription. Et pour les ateliers de police scientifique, il faut s'inscrire aussi. Il y a 6 ateliers dans le week-end, ou 4 ateliers dans le week-end, donc c'est des places limitées. Il y a le collectif de la remorque qui installe la remorque et qui va lire les nouvelles primées, le concours de nouvelles, les 3 dernières nouvelles qui sont arrivées en bout de course. Voilà, il y aura la remorque installée et il y aura des lectures au sein de la remorque pour les jeunes.
Je vois aussi jeux vidéo.
Jeux vidéo, j'ai oublié. Ah. Donc il y a déjà une animation au cours d'année parce qu'on essaie aussi de faire vivre le festival un peu toute l'année. Le jeu vidéo en question a été testé au mois de juin en partenariat avec le club informatique de Saillant. Donc là, ils reviennent, ils remettent leur jeu vidéo. Donc moi, je n'y suis pas du tout allée, mais apparemment, on pilote un peu le jeu vidéo. C'est nous qui prenons les décisions. Il y a un scénario et il faut essayer. C'est une enquête. En gros, c'est une sorte d'enquête, mais c'est le joueur qui décide.
Et c'est une création
C'est une création. C'était en avant-première au mois de juin. C'est une avant-première à Saillant pour tester. Et là, ils veulent continuer, voir comme on pense qu'il va y avoir plus de monde pendant le festival. Voilà, que le club informatique sera là, les postes informatiques. Ils reviennent, ils remettent leurs jeux vidéo à disposition. Il y a beaucoup, c'est chargé.
Il y a de quoi faire, c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir tout répéter et tout redonner. Je reprécise juste que sur le site internet du festival www.anguillesousroche.fr et sur Facebook, vous aurez toutes les informations.
Oui.
Voilà, en précise.
Oui, on précise et surtout pour réserver.
Oui, il faut réserver, voilà, c'est ça, pour le cinéma, il faut réserver.
Et rapidement.
Oui, c'est surtout pour Balbeuf Carotte.
Bah voilà, déjà.
Voilà,
oui.
Parce que pour le préparer, s'il y a 100 personnes qui l'en a fait pour 20, ça sera une carotte pour chacun, ça ne le fera pas. Je voulais juste aussi rajouter, on a quelqu'un qui s'est beaucoup investi cette année avec nous, qui est Jackie Dugrand, qui a une librairie spécialisée, Marché Noir, et qui est un des rares en France à avoir la collection, par exemple, complète de l'édition qu'on va fêter l'année prochaine, les 70 ans. Et donc, il va exposer. Il y aura une exposition sur San Antonio aussi. Voilà, pour les fans de San Antonio, Jackie sera là.
Et la boutique de Jackie, elle se trouve où ?
À Gardanne.
À Gardanne.
Juste, tu veux finir sur
quelque chose ?
Oui,
je veux juste finir parce que c'est vrai qu'on a parlé toutes les animations, mais on n'a pas parlé des auteurs.
Et oui.
Pas encore.
Voilà. Donc oui, on a 20 auteurs qui viennent, des habitués, des nouveaux, des premiers romans, des romans confirmés. Des gens qui adorent revenir à Saillant, dont un qui est à mes côtés.
Et qui a déjà... est-ce que tu l'as remporté, le prix Anguille-Souroche ?
Et non, malheureusement, ils ne l'ont pas remis. Ils n'ont jamais voulu me le remettre. Voilà.
Ça ne t'empêche pas de revenir ?
Non, j'aime l'ambiance.
T'es bon joueur, c'est chouette.
J'aime la clairette.
Alors, t'as écrit un certain nombre de livres. T'as commencé à écrire il y a longtemps. Mais
oui.
Ton premier bouquin, il est publié en... 2010.
Oui.
Et donc, tu démarres ça avec une trilogie, qui n'est pas tout de suite une trilogie, évidemment, mais qui le devient. Et ton premier livre, du coup, est une sorte de succès, même s'il est peut-être, je ne sais pas, modeste, mais enfin, en tout cas, tu commences fort.
Oui, ça a été tout de suite un succès numérique, on va dire, puisque la maison d'édition avec laquelle j'avais signé à l'époque, s'était engagé tout de suite dans la publication numérique à l'époque où encore c'était un peu inconnu pour tout le monde, c'était une terra incognita. Et du coup, ça a fonctionné, il y a eu le bouche à oreille. Le prix aussi de vente du roman était très attractif, ce qui n'était pas le cas pour d'autres éditions. Et ça a fonctionné, oui, effectivement, ça a fonctionné tout de suite.
Au niveau du public, mais au niveau de la critique aussi, certains magazines peut-être, certaines publications ou...
Oui, j'ai fait Rolling Stone tout de suite, New York Times.
Ah, mais c'était vous.
C'était moi.
Écoute, on y est presque, hein, parce que sur un de tes bouquins, il y a quand même le journaliste qui fait la chronique littéraire dans le Journal de la Santé qui est plutôt enthousiaste au sujet d'un de tes bouquins. C'est déjà de la belle reconnaissance.
Oui, mais c'était un bref passage. Je crois qu'il a juste montrer une marque de sympathie en montrant la couverture du roman, mais c'est ce qui est déjà pas mal. Ouais. Il a aimé la lecture de ce roman. C'est bien, ouais. Ouais. Et je le remercie d'ailleurs.
Merci Gérard Collard.
Gérard Collard.
C'est l'occasion. La trilogie donc des Verticales qui commence avec la Verticale du Fou en 2010. Alors moi, c'est tout de suite, quand j'ai lu de quoi il était question, tout de suite mon cœur a fait un bond. Clarisse est morte. Clarisse, c'est ma fille. Mais bon, il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin, n'est-ce pas, comme dirait ma mère. Et Clarisse est, comment on dit, pas victime, hein, n'est-ce pas, mais en tout cas, elle a une expérience de sortie de corps. Comment on explique ça?
C'est ça.
Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est morte. Hein.
Malheureusement, Clarisse est morte et elle s'aperçoit, au bout d'un certain laps de temps, qu'elle peut observer son corps qui est là, qui gît sur le sol dans un étrange décor, et elle s'aperçoit aussi qu'elle a une conscience, que sa conscience est toujours en action, on va dire active, et il y a un laps de temps où bien évidemment elle cherche à comprendre ce qui s'est passé, elle comprend qu'elle a été assassinée et qu'elle veut retrouver son assassin. Voilà. Donc elle va, par bribes de mémoire, remonter le fil du temps, comme ça, en arrière, et remonter le fil de sa vie. Voilà.
C'est l'occasion d'une analyse
Une introspection qui ne va pas être facile pour Clarisse, puisque c'était un personnage très superficiel, très égocentrique. Et elle se rend compte, comme ça, au fil du temps, que tout ce qu'elle a fait de sa vie n'était pas si bon que ça. Et qu'elle est passée à côté de quelque chose de très important, qui est l'amour. Ce que tout le monde, enfin je l'espère, je pense, recherche. Voilà. Et elle remonte comme ça jusqu'à découvrir son assassin.
Alors malgré sa mort, elle reste un des personnages clés du deuxième roman aussi, à la Verticale des Enfers. Oui. Elle est toujours présente. Est-ce qu'elle est présente en termes de vrais personnages, ou c'est plutôt son idée ou son souvenir qui fait office?
Oui, c'est un peu le personnage, c'est l'image. J'aime dire que c'est le concept de Clarisse qui est présent dans la Verticale des Enfers. Cela dit, je ne peux pas non plus vous donner toutes les clés.
Bah non, il vaudrait mieux pas.
Ça serait dommage. Voilà.
Non, il ne faut pas trop en donner. Et la Verticale du Mal, c'est le dernier. J'ai des notes là, hein, tu peux le voir. Désolée pour les auditeurs qui ne peuvent pas. Je n'ai rien réussi à écrire. Parce que c'est une histoire et en même temps pas une histoire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, moi, dessus.
Déjà, l'histoire se déroule aux États-Unis. Ce n'est pas dans mes habitudes d'écrire des romans qui se déroulent aux États-Unis, à part ma prochaine parution là, pour le 6 octobre. J'ai pensé que délocaliser, si je peux m'exprimer comme ça, le récit aux États-Unis, c'était très bon parce que c'était aussi la terre de naissance des tueurs en série. Et je pensais qu'il était bon de faire un parallèle avec mes personnages qui évoluaient bien sûr en France, de les envoyer là-bas pour les réunir tous au moment du dénouement.
Le dénouement, ça veut dire qu'on apprend aussi des choses, je suppose, sur les deux premiers tomes. Et...
Oui. C'est vrai que c'est très difficile d'en parler comme ça, parce que bon, on peut pas dévoiler le moindre petit détail, parce qu'on pourrait spoiler le récit.
Le récit, mais en tout cas, c'est important de les lire tous les trois, et dans l'ordre, je suppose.
Dans l'ordre, c'est mieux, oui. Mais bon,
oui. Il n'y a pas que la trilogie des Verticales. Je vois que tu as écrit aussi un bouquin presque local, un thriller savoyard.
Oui, un thriller savoyard. Ouais, c'est Tueur au sommet.
Oui, Tueur au sommet, je vois ça. Parfait. En mars 2011, donc, là aussi, des flics, des meurtres et des histoires qui prennent naissance dans le passé.
Oui, tiré de faits réels aussi. Parce que je m'étais inspiré d'une sombre affaire de disparition d'enfants et de torture sur des enfants. C'était assez difficile, notamment lors de ma documentation concernant ce travail. Et il en est ressorti des choses pas très sympas. cela dit, oui, ça reste un thriller très très sombre. Et notamment, bah, je reviens un petit peu avant sur la prochaine parution, prochaine.
Ne t'inquiète pas, on va y venir. Hein,
voilà, qui est un thriller. Non, mais je parle de ça parce que effectivement, je n'avais pas réécrit de thriller aussi noir depuis Tueur au sommet, justement. Voilà.
Il y a, je vois le cercle du chaos. Alors là, on touche à la religion, les prophètes. Ouais. C'est pareil. J'ai lu le résumé. J'ai même écouté d'autres interviews, mais pas facile de s'exprimer non plus sans trop en dire.
Ouais.
Ce serait, qu'est-ce que tu peux m'en dire en quelques mots aussi?
Alors, c'est un thriller d'anticipation, très inspiré aussi de notre époque, finalement, de notre société, de ce que notre société et celle de nos voisins aussi européens est devenu et, à mon sens, va continuer à devenir. C'est un roman sur le communautarisme, sur les religions, le fanatisme et le terrorisme. Tout cela associé aussi, bien évidemment, à une histoire humaine, où il est question de plusieurs personnages qui se retrouvent, qui se rencontrent et qui sont liés pour un seul et unique but.
Et c'est quoi ta façon de travailler ? Je veux dire, en tant que...
Alors, je bois beaucoup.
D'accord, ok, super.
La drogue aussi.
Je prends un peu de drogue aussi, mais bon, je ne sais pas si on a le droit de en parler à l'antenne.
Si tu ne donnes pas de marque, ça va.
D'accord. Non. Ma façon de travailler, elle évolue au fil des années. Ça change constamment.
En fonction des bouquins, j'imagine, aussi.
Aussi, mais en fonction de ma vie aussi, surtout. Alors, il y a eu le grand bouleversement dans ma vie à une certaine époque, donc forcément j'ai changé de façon de travailler.
La paternité,
entre autres. Voilà. Le célibat aussi.
Aussi, oui.
Ce sont des choses qui arrivent.
Voilà. Non, mais sinon, j'ai l'habitude de travailler un peu à n'importe quel moment de la journée. En ce moment, je préfère le matin. Je préfère travailler le matin.
C'est quoi? C'est devant un ordinateur ou avec un crayon?
C'est un peu les deux. Alors, c'est beaucoup plus devant le clavier et l'ordinateur, évidemment. Mais il m'arrive aussi de prendre des notes. Ça dépend de l'endroit, ça dépend où est-ce que je me trouve. Voilà. Ça peut être aussi sur un dictaphone. Voilà.
Il y a un certain nombre de tes ouvrages quand même qui se passent aux États-Unis, finalement, parce que Dolly's Bible.
Oui,
Dolly's Bible. On peut en dire quelques mots, mais ça se passe aux États-Unis.
Oui, ça se passe dans une contrée, une ville imaginaire.
Ah, mais on imagine aisément que ça se passe aux États-Unis, mais c'est pas écrit nulle part.
Mais ça se passe quand même, tout de même, à côté de Los Angeles, c'est tout près de Los Angeles, et même à Hollywood même, dans les Hollywood Hills.
Et donc, tu fais des voyages peut-être pour documenter? Est-ce que tu les as visités, les États-Unis ou...
Je voyage avec Google Maps, je voyage beaucoup avec Google Maps.
C'est moins cher.
C'est très intéressant, c'est moins cher, c'est beaucoup plus rapide et finalement très précis.
Ça permet d'avoir une idée de la topographie de lieu.
Alors justement, c'est bien de parler de ça parce que j'ai beaucoup travaillé pour La Verticale du Mal avec Google Maps parce que certaines scènes décrivaient le détail, à un détail près, les habitations des personnes qui vivaient sur Mulholland Drive.
Ben oui, forcément.
David Lynch. C'est ce que j'allais dire. On le lit dans ta bio, David Lynch, une inspiration présente.
Ouais.
You got to seen it coming at me. No way you can stay. I know. I know. Tell me, baby. So you go on down the road now. You're gonna leave my sight. But I remember you, baby, each and every night. Take you now, girl. The bird, she stopped to sing. Since I went and did that thing,
moi ça me fait rebondir sur une question que j'avais. Une adaptation ciné d'un bouquin de Fabio Micheli, ce serait chouette.
Oui, d'ailleurs David m'a contacté.
il m'a appelé hier.
Il viendra nous rejoindre au Festival du Polar de Saillant. C'est là que nous devons signer d'ailleurs.
Félicitations. Non, mais ce serait quelque chose qui te ferait plaisir, qui serait jubilatoire ou...
Évidemment, évidemment. Je pense que chacun de mes amis auteurs... pense un jour, enfin en tous les cas espère avoir, c'est la consécration je pense.
En tout cas quand on est cinéphile et qu'on écrit ses bouquins avec une certaine idée du cinéma, je suppose que ils sont, le lecteur doit le ressentir comme quelque chose d'adaptable tout de suite quoi, c'est pas comme, comme peut-être un auteur qui n'irait pas ou qui n'aimerait pas le cinéma, qui aurait une manière d'écrire plus obscure.
J'écris mes romans, oui, j'essaye d'architecturer le roman à la base, à sa construction, comme un découpage cinématographique, un storyboard. Je fais un montage scénario, fiche de lecture, fiche personnage, pardon. Voilà, et j'évolue comme ça, petit à petit. Je travaille aussi un peu comme, c'est un petit peu le cliché, mais... Comme certains flics dans leur bureau, en punaisant au mur des tas de notes et de photos.
Les serial killers aussi travaillent comme ça.
Tout à fait.
Il y a des points communs dans les façons de travailler entre les auteurs qui imaginent ou qui retranscrivent les vrais crimes et puis les auteurs des vrais crimes. Souvent, on prend les auteurs de choses noires comme ça, psychologiques et crues, pour des fous. Il faut admettre que quand on lit Stephen King, par exemple, on peut se poser des questions sur sa santé mentale. Or, il se trouve que ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt sain et équilibré. Toi-même, comment tu te décrirais ? Est-ce que tu as un côté sombre ou est-ce que justement ça te permet d'évacuer tout ça ?
Bah, moi, j'ai fait 4 ans de HP. Et après, m'est venue l'envie d'écrire.
Normal.
Forcément, enfin, on a tous, je crois qu'on a tous une part sombre en nous. Hein. C'est un peu le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors je vais chercher, oui, évidemment, je vais chercher parfois des énergies qu'il faudrait peut-être pas parfois réveiller. Et j'ai besoin de ça, oui, j'ai besoin de ça pour écrire aussi et me mettre aussi dans une ambiance particulière, de me sentir aussi affecté.
T'es perturbé par certaines de tes idées ?
J'ai besoin de me sentir perturbé, j'ai besoin de me sentir triste parfois, de me sentir choqué, violenté, parce que je peux découvrir, en tous les cas, dans la documentation, en amont de l'écriture. Et ensuite, lorsque je retranscris cela sur le papier.
Et est-ce que tu utilises d'aller voir des films ou une ambiance musicale pour travailler ? Est-ce que ça t'aide ?
Oui, beaucoup l'ambiance musicale, oui, plutôt. Ouais. Ouais. D'ailleurs, David Lynch produit de la très très bonne musique, de la très belle musique. David Lynch est aussi un très grand musicien, photographe, plasticien. C'est un grand, grand, grand artiste.
Je vois que tu es un fan. Tu fais de la musique également ?
Avec David Lynch, oui. Non, je faisais de la musique. Oui, j'étais saxophoniste dans un groupe.
Ah ben voilà.
Voilà, on a glissé sur une dizaine d'années sur de belles, belles choses.
Est-ce que tu glisses des références cinéphiles dans tes livres ?
Il y a toujours des petits clichés, enfin des petits clins d'œil comme ça, ouais, ça arrive souvent. Des acteurs, d'ailleurs, dans La Verticale du Mal, les références à un comédien, un acteur américain très connu, d'ailleurs. Voilà, oui, ça m'arrive, bien évidemment. Ouais.
Et c'est marrant, toujours cette attractivité des États-Unis quand on parle de thriller. C'est toujours, je trouve ça très marrant, quoi.
Ouais, c'est un peu le berceau.
Voilà,
aussi,
c'est ça.
Et puis. Je pense qu'il y a eu un lot de tueurs très très violents aux États-Unis, qui ont été très médiatisés aussi.
Voilà, mais non, parce qu'il y a d'autres pays aussi, comme l'Afrique du Sud ou la Russie aussi, qui ont eu, comme l'ogre de Rostov.
Tout à fait.
Voilà. Tout à fait. On va peut-être commencer à parler de.
Tu veux dire de la publication de Fabio qui arrive au mois d'octobre, le 6, c'est ça ?
C'est ça, le 6 octobre.
Le 6 octobre 2014, tu publies, en tout cas, il y a la sortie de ton dernier livre, La Compassion du Diable. Rien que le titre, déjà, on se demande où tu veux en venir.
La Compassion du Diable aux éditions Fleur Sauvage.
Et là aussi, saut dans le passé et enquête plus présente.
Ouais.
Vas-y.
Attendez, il a combien de temps pour
jusqu'au bout de la nuit?
Non, parce que là, ça commence en 1963, hein, donc voilà. Non, j'aimerais dire que ça démarre en 1963, mais on n'est pas vraiment certain que cette histoire démarre en 1963. J'aimerais juste faire une parenthèse avant. Ce roman est un récit. C'est un récit inspiré de la vie de Jeffrey Dahmer, qui était et qui est toujours, qui reste un tueur en série qui me fascine. Depuis une vingtaine d'années déjà. Bon, j'ai suivi des tas de documentaires, regardé des tas d'émissions sur Jeffrey Dahmer. J'ai fouillé le net sur Dahmer. Vraiment fasciné par ce personnage, par sa psychologie, surtout. Pas spécialement par les meurtres qu'il a pu commettre, mais surtout par sa psychologie. Il faut savoir que c'est un des seuls, en tous les cas, un des rares tueurs en série à avoir... avouer ses regrets le jour de son procès et avoir expliqué qu'en fait il aimait ses victimes, il aimait vraiment mais profondément ses victimes, car tout simplement il les assassinait parce qu'il ne voulait pas se retrouver seul. Voilà, c'était la petite parenthèse.
Et c'est un homme encore emprisonné aujourd'hui ou...
Jeffrey Dahmer a été assassiné en 1994 avec ses co-détenus lors d'un ménage. Il est en train de faire le ménage et puis son co-détenu l'a assassiné à coups d'halter.
Et c'était aux États-Unis, ça ?
C'était aux États-Unis. Oui. Voilà. Alors, j'ai fait cette parenthèse, si je peux me permettre.
Permettez-moi.
En disant que l'histoire démarre en 1963, tout simplement parce que j'ai modifié la chronologie, j'ai modifié les dates, modifié aussi les noms, parce que je ne voulais pas qu'apparaisse le nom de Jeffrey Dahmer
directement
dans mon roman, bien que ça soit vraiment, vraiment inspiré. De lui, ce n'est pas une biographie non plus, ce n'est pas l'étalage de ses meurtres et de toute le flou médiatique qui a pu s'en suivre. C'est une vraie histoire qui se déroule donc avec encore une fois des personnages qui sont tous liés les uns aux autres. Donc 1963, il y a une série de meurtres qui se déroule à Cleveland. Dans l'Ohio, très violent, qui touche en majorité la communauté gay de Cleveland. Voilà. Donc ça démarre comme ceci et on fait un pas de géant jusqu'en 1981 où là, une équipe de botanistes découvre dans le parc de Cuyahoga Valley des barils, ils déterrent des barils une équipe de botanistes déterre des barils de plastique bleu dans lesquels on retrouve des corps. Donc l'enquête démarre. Un binôme d'enquêteurs donc, est chargé de l'enquête et tout va partir de là.
Ça me rappelle Dexter.
Ah. Moi, ça me rappelle plutôt Granger.
Ah, bah oui,
le c'est binôme. Vrai. Toujours un binôme chez Granger.
Un petit peu. Je suis très inspiré aussi de Jean-Christophe Granger.
Alors, ce bouquin-là, il sort le 6 octobre 2014, comme je viens de le dire. Où est-ce qu'on pourra se le procurer ?
Mais de partout.
De partout ?
Partout, en librairie.
Et au festival,
notamment.
Et oui, ça va. Et oui, ça va au festival du Polar de Saillant.
Donc, on peut te rencontrer, on peut se faire dédicacer ce livre-là, ce jour-là ?
Bien sûr, avec plaisir.
Fabuleux. À quelle occasion, pendant le festival ?
Après la sieste,
quand
je
on
pense,
le trouve
près du bar,
en général, on est
à sa table,
on se ressource. Dehors, généralement, on se ressource au comptoir. On n'est pas bien loin. Non, mais j'assume.
Et après 2-3 bières, t'es assez disponible.
Ça va mieux déjà. Ouais. Je suis plus accessible.
Voilà. Puis ensuite, quand il en a bu 5-6, il va écrire. Hop. Les clichés sur les écrivains vont bon train. C'est pas mal. C'est bien. C'est très bien.
Est-ce que tu as déjà le prochain en tête ?
Eh oui, alors le prochain est déjà écrit.
Oh. Déjà écrit. Bah d'accord.
Et en lecture chez certains éditeurs. Donc, voilà.
À voir qui va avoir envie de l'éditer, c'est ça ?
Alors j'espère en tous les cas qu'il sera publié.
Tu as déjà le titre ou...
Le titre actuel, je ne le dirai pas. Mais c'est gars qui fait tourner le...
Non, mais c'est une suite ou...
Non,
c'est...
Non, c'est vraiment un roman qui n'a rien à voir avec les autres.
D'accord.
Voilà. C'est quand même un thriller ?
C'est un thriller un peu particulier, historico-scientifique.
Ça donne déjà l'eau à la bouche, je trouve. Sarah, on va rapidement répéter les infos au sujet du Festival du Polar à Saillant. Le 10, 11, 12 octobre, à Saillant, mais pas seulement, avec toutes les informations qui sont fournies sur le site internet du festival et sur sa page Facebook. On rappelle la présence, entre autres, de Patrice Dard et puis de Fabio Micheli et puis de plein d'autres auteurs talentueux. De plein d'ateliers, de plein de tables rondes.
Il y a beaucoup de choses
à faire pour tout le monde.
On peut venir en famille.
Et surtout réservé.
Surtout oui. Réservé.
Merci Gwen. Non mais ouais. C'est vrai, parce que les ateliers de police scientifique...
Oui, mais voilà, c'est ça.
Donc nous, on fait partie de la Fête de la Science. On est agréé Fête de la Science maintenant. Et l'association Cassiopée, qui fait ses ateliers de police scientifique, l'an dernier a fait un carton à Saillant. C'est là où elle a eu la meilleure affluence.
Donc pour les ateliers de police scientifique, pensez à réserver. En tout cas, toutes les infos sont sur le site. Le site, évidemment, que je noterai sur la page de l'interview, sur le site www.rdwa.fr. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue nous parler du festival.
Merci à vous.
Merci, Fabio, d'être venu nous parler de ton travail.
Merci beaucoup.
Merci, Gwen.
Bien.
Continuez d'écouter RDWA et à bientôt.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.